Bonsoir à tous, on est heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année. On vous souhaite, les amis de la bibliothèque, se souhaitent mutuellement une belle année 2018. Et on va le souhaiter en particulier pour notre intervenante de ce soir, Hélène Vutane, que je vais présenter dans un tout petit instant, que je remercie déjà d'être là avec nous ce soir. Elle est maître de conférence en Bretagne, à l'Université de Bretagne Sud à Lorient. Alors ce soir, nous allons partir loin. C'est ça, je crois que c'est une des richesses de nos conférences, c'est d'avoir un éventail vraiment très très large. La fois dernière, on évoquait le catholicisme social avec Léon Armel. On a à chaque fois des thèmes extrêmement divers et on essaiera de continuer par la suite. La prochaine conférence sera autour du Testament de Sainte-Claire. Et on pourrait se demander finalement pourquoi ce soir on va évoquer ce martyr de 1597, ce martyr des franciscains. Alors non seulement parce que nous avons une grande spécialiste avec nous, mais je vous signale que nous avons deux raisons bien particulières ici de nous intéresser à ce martyr. D'une part, peut-être vous rappelez-vous, certains, d'avoir vu ici un tableau qui avait été ramené du Japon et qui était intitulé, qui était dit Notre-Dame du Japon, qui a été pendant très longtemps dans cette chapelle ici aux Capucins. Chez les Capucins, il y avait même une chapelle qui lui était dédiée, c'était la chapelle de Notre-Dame du Japon. Elle a donné lieu, cette représentation, à un article de Sophie Morishita, Sylvie Morishita, pardon. Et à cause de cet article qui était paru dans l'étude franciscaine, le contact a été rétabli avec l'archevêché de Nagasaki, et il y a quelques années, les Capucins ont fait le choix de rendre cette peinture au Japon. Et pourquoi ? Parce que les autres exemplaires de cette peinture avaient été détruits au moment de la bombe atomique de Nagasaki. Et donc le seul exemplaire qui existait toujours se trouvait ici, et les Capucins ont fait le choix de le rendre à l'archevêché de Nagasaki. Et donc, ça doit se trouver actuellement au musée de Nagasaki, cette représentation. Et puis, alors, deuxième raison, qui est peut-être moins connue, peut-être que les plus anciens d'entre vous se souviennent que de l'autre côté de la rue, il y a eu très longtemps une chapelle du Tiers-Ordre, à la place actuellement d'un bâtiment qui appartient au Tiers-Ordre. Et cette chapelle qui a été détruite en 1970 était une chapelle qui était dédiée au saint martyr du Japon. Et pourquoi ? Parce que c'est une chapelle qui avait été construite un peu après 1862, l'époque où les martyrs du Japon ont été canonisés. Donc vous voyez, il y a des liens mystérieux d'une certaine manière qui font que, encore aujourd'hui, c'est important, intéressant de poursuivre ces liens et d'évoquer encore ce soir, avec Hélène Vutane, ces martyrs du Japon. Alors, Hélène Vutane, elle, au départ, a consacré sa thèse aux jésuites, aux jésuites missionnaires qui sont arrivés d'ailleurs avant les Capucins. Elle va nous en dire un mot tout à l'heure. Et sa thèse a donné lieu à un ouvrage qui a un beau titre, qui dit bien, d'une certaine manière, l'esprit de la mission de ces jésuites, puisque là, l'ouvrage qui est paru aux presses universitaires de Paris-Sorbonne s'intitule « Devenir japonais, la mission jésuite au Japon ». Entre 1549, parce que le titre est en petit là, et
1614.
Et 1614, voilà. Et donc les martyrs, les jésuites ont eux aussi connu des martyrs. D'ailleurs, vous avez entendu parler de ce film assez récent qui est le dernier Scorsese.
Silence. Oui.
Voilà, Silence, qui évoque la tragédie vécue par ces jésuites. Et donc, depuis longtemps, finalement, Hélène travaille sur ce sujet-là, mais assez régulièrement, elle est venue ici, à la bibliothèque, pour travailler sur les franciscains, qui eux aussi sont partis missionnaires au Japon et qui ont connu des martyrs, en particulier ceux de 1597. Donc merci à toi, Hélène, de nous donner cette conférence, et on sera toujours prêt d'ailleurs à te accueillir à nouveau pour travailler ici à la bibliothèque. C'est toujours une joie de t'accueillir.
Merci beaucoup Pierre, merci pour cette invitation et cette présentation. Alors je vais d'une certaine manière rajouter un troisième lien entre la bibliothèque et le Japon, puisque je vais vous parler beaucoup aujourd'hui d'un ouvrage en fait que j'ai consulté précisément à la bibliothèque, qui est un ouvrage d'un chroniqueur franciscain qui s'appelle Marcelo de Rivadeneira, d'origine donc espagnole, et qui a publié un ouvrage. Alors je vous traduis le titre, je vous le raccourcis aussi parce qu'ils ont l'habitude des titres à rallonge à cette époque-là. Donc, Histoire des îles et des archipels et royaumes de la Grande Chine, du Siam, de Cochinchine et du Japon, et de tout ce qui s'y est déroulé pour les franciscains. Donc c'est un ouvrage qui a été publié en 1599. Donc ça va servir, on va dire, de base, si vous voulez, à notre étude. D'autant plus, si vous voulez, que Marcelo de Rivadeneira a lui-même été au Japon, si vous voulez, et il a fait partie de cette mission des années 1590, donc qui s'est terminée de manière assez sanglante par le martyr. Donc de 1599. Donc vous voyez, il n'a pas assisté au martyr en tant que tel, mais on va dire il était sur place au Japon à cette époque-là, et il s'est chargé de réunir un petit peu toutes les informations à ce sujet-là. Alors, ce qui est déjà tout à fait étonnant, si vous voulez, sur ce martyr de 1597, pour essayer de vous replacer les choses un petit peu dans le contexte général, c'est que déjà c'est le premier, on va dire, vrai martyr au Japon. Alors, la mission a commencé, si vous voulez, en 1549, et Pierre l'a rappelé tout à l'heure. Au départ, la mission est un monopole jésuite. Ah, donc ce sont les jésuites qui sont les premiers à poser le pied en Japon avec François Xavier. Et ils vont... Alors, est-ce que je peux vous demander la diapositive ? Merci. Alors, pour bien comprendre la mission, on va dire, en Asie, il faut avoir un petit peu en tête les équilibres politiques ibériques de l'époque. C'est-à-dire que la mission jésuite est liée à l'Empire portugais. Alors, si vous voyez, l'Empire portugais, bon, on dit empire, c'est très petit. En réalité, c'est des petits points d'appui. C'est un empire essentiellement maritime qui, donc, si vous voulez, a des points d'appui, par exemple, à Goa, si vous voulez, en Inde, ou d'autres points d'appui à Malacca et puis à Macao, en face de Canton. Donc lorsque, si vous voulez, les jésuites arrivent au Japon, ils sont, on va dire, aidés par les marchands portugais qui se chargent, si vous voulez, de les amener, de les approvisionner. Et donc les jésuites passent toujours par ce qu'on appelle la voie des Indes orientales. Bon. Et donc ils ont le monopole, si vous voulez, officiel de la mission, qui est reconnu d'ailleurs par la papauté au début des années 1580. Bon. Alors, ce joli équilibre, on va dire, est rompu précisément dans les années 1580 avec l'arrivée, si vous voulez, des franciscains. Alors, cette fois, ce sont des franciscains qui viennent à partir des Philippines espagnoles. On va dire, c'est l'exception en Asie. On va dire, les Philippines sont colonisées, enfin, à peu près, on va dire, par les Espagnols dans les années 1570. Donc ça, c'est un point fondamental sur lequel on va revenir, c'est qu'au Japon, vous avez donc une double rivalité qui va naître, si vous voulez, une rivalité missionnaire entre jésuites et franciscains, qui se double d'une rivalité, si vous voulez, entre ibériques, entre portugais et espagnols. Et c'est quelque chose que nous allons retrouver même dans le martyr, si vous voulez, de 1597. Alors, je vous disais que ce martyr, c'est vraiment le premier, en tout cas, qui va toucher des missionnaires. On va voir qu'il y a un premier petit épisode, si vous voulez, de persécution, mais qui au final va être très, très limité. Donc c'est pour ça que ce martyr, on va dire, de 1597 a acquis, si vous voulez, une image particulière au sein de la mission du Japon. Et il faut bien comprendre, et ça aussi c'est le deuxième point qui va beaucoup nous occuper au cours de cette présentation, c'est que les franciscains, en fait, se sont chargés eux-mêmes, si vous voulez, de faire en quelque sorte la publicité de ce martyr. Alors, c'est d'autant plus remarquable, il faut le dire, que la mission franciscaine est très petite, si vous voulez. En fait, c'est un micro-événement, le martyr de 1597. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le contexte du Japon, si vous voulez, tout le monde s'en fiche, autant clairement le dire. Voilà, c'est quelques dizaines d'illuminés, plus ou moins, pour le pouvoir japonais, qu'on a crucifié sur une colline à Nagasaki. Voilà, ça ne va pas, on va dire, ça ne va pas au-delà du point de vue local. Mais par contre, on va dire, la réponse enfin le, oui, la publicité d'une certaine manière, la répercussion que ça va avoir en Europe hein, est tout à fait considérable hein, et est le fruit d'ailleurs de l'ordre franciscain hein, lui-même, qui va complètement se mobiliser à la fois en Asie, mais également on va le voir en Amérique et évidemment en Europe pour assurer hein, la promotion hein, si vous voulez, de ces saints. Alors, revenons déjà, si vous voulez, rapidement sur les causes du martyre. Hein. Reprenons déjà, expliquons pourquoi tout d'un coup vous avez eu cet épisode hein, du martyre de 1597. Et ce qui est intéressant aussi, c'est, on va dire, de confronter les faits locaux avec le récit qui est fait par les franciscains. Et on va voir que, évidemment, vous avez un certain nombre de différences hein, entre, on va dire, voilà, l'histoire locale. Et le récit notamment de Pedro de Rivadeneira, de Pedro, c'est mon côté jésuite, de Marcelo, pardon, de Rivadeneira. Alors, c'est également important aussi de revenir sur les causes, hein, puisque je vous rappelle que, si on reprend l'expression hein, bien connue de saint Augustin, ce sont avant tout les causes, hein, beaucoup plus que l'effusion de sang qui font le martyr. Hein, et ça, ça a été rappelé notamment, puisque vous évoquiez tout à l'heure le film Silence, ça a été rappelé aussi par la Compagnie de Jésus à cette occasion-là, lorsqu'ils ont présenté le film, que c'est pas, voilà, c'est pas forcément de faire couler le sang hein, qui vous assure de la validité de votre martyre. Alors ce qui est intéressant, c'est que pour en revenir au martyre de 1597, les chroniques, et notamment celle de Rivadeneira, analysent assez peu en fin de compte les facteurs du déclenchement des persécutions. Donc au final, c'est présenté, si vous voulez, dans les chroniques franciscaines, comme une sorte d'événement qui est tout à fait soudain, un retournement subi du pouvoir japonais, qui pourtant a accueilli quelques années auparavant à bras ouverts les franciscains. En tout cas, c'est comme ça que ça nous est présenté. Voilà, on nous dit, mais le pouvoir japonais, qui à l'époque est représenté hein, par un puissant seigneur qui s'appelle Toyotomi Hideyoshi, il a donné un terrain aux franciscains lorsqu'ils sont arrivés dans les années 1580. Il leur a donné de l'argent pour construire le couvent. Bon, bref, tout a l'air d'aller parfaitement dans le meilleur des mondes hein, au Japon. Et donc, tout d'un coup, on ne comprend pas très bien pourquoi il y a ce martyre de 1597 et Hideyoshi, qui était présenté comme le meilleur ami si vous voulez, des franciscains, tout d'un coup est évoqué comme un tyran. Hein, voilà, donc il n'y a pas, on va dire, c'est très subi la façon en tout cas dont c'est présenté. Alors pour autant, on va dire que cette présentation des franciscains se heurte à la réalité, on va dire, du terrain. Disons qu'il y a plusieurs éléments qui montrent, si vous voulez, que la persécution s'inscrit, si vous voulez, dans une causalité, on va dire, des rapports entre l'État japonais, qui est en pleine construction, et les différentes religions, hein, si vous voulez, de l'archipel. Merci beaucoup. Alors, quels sont ces éléments qui auraient dû attirer l'attention des franciscains ? En fait, ils s'en sont parfaitement conscients, hein. C'est juste la façon dont c'est présenté dans les chroniques. Première cause, on va dire, qui aurait dû attirer l'attention des franciscains, c'est un petit premier épisode de persécution qu'on a évoqué tout à l'heure en 1587. Qu'est-ce qui s'est passé en 1587 ? Le dirigeant hein, japonais qu'on a évoqué, hein, Hideyoshi, a interdit, si vous voulez... Alors, interdit le christianisme officiellement, tout en laissant les jésuites sur place. Disons que c'était, on va dire, une sorte de compromis qui avait été trouvé. Donc on a détruit quelques églises, détruit quelques collèges et séminaires de la compagnie, mais si vous voulez, les jésuites hein, sont restés sur place au Japon. Tout ce qu'on leur demandait, c'était d'être discrets. Donc officiellement, c'est interdit. Dans les faits, les chrétiens, il y avait des conversions, hein, si vous voulez, qui continuaient. Mais on va dire, c'est un premier épisode, on va dire, des tensions qui peuvent exister hein, entre les chrétiens et le pouvoir japonais. Deuxième élément qui aurait dû là aussi inquiéter un petit peu les franciscains, c'est le rapport tout à fait particulier que le pouvoir japonais entretient avec les religions et même, si vous voulez, le bouddhisme dans l'archipel. Notamment, si vous voulez, il y a déjà eu des luttes, hein, on va dire, entre le pouvoir japonais et un certain nombre de courants, si vous voulez, du bouddhisme, luttes armées. Hein, il s'agit de guerres hein, qui sont menées contre un certain nombre de sectes, comme pour prendre la dénomination de l'époque, de sectes hein, bouddhiques qui sont des sectes de moines soldats. Hein. Enfin, oui, c'est pas des bouddhistes très, très pacifiques. Donc en fait, qu'est-ce que réclame le pouvoir japonais? Et c'est ça que les deux épisodes, si vous voulez, nous montrent. Ils réclament, si vous voulez, une forme de soumission politique des religions qui sont présentes dans l'archipel, si vous voulez. Que ça soit, si vous voulez, le christianisme ou que ça soit hein, le bouddhisme. Bon. Alors, qu'est-ce qui va, si vous voulez, donc ça c'est un petit peu le contexte général qui va aboutir au déclenchement, alors qui est de la persécution de 1597. Alors, quel est, on va dire, l'événement tout proche qui va vraiment mettre le feu aux poudres et qui va entamer, si vous voulez, les bonnes relations que le pouvoir japonais avait avec les franciscains? Eh bien, c'est un événement tout à fait fortuit qui se passe en 1587. C'est le naufrage, si vous voulez, d'un navire. Je peux vous demander la seconde diapositive d'un navire, si vous voulez, qui provient des Philippines espagnoles. En fait, c'est un navire qui, si vous voulez, repartait de Manille et qui était destiné à traverser le Pacifique hein, pour relier, hein, si vous voulez, de l'autre côté, l'Amérique espagnole. Or, le problème, c'est que ce navire va s'échouer, si vous voulez, sur les côtes hein, de l'archipel, si vous voulez, sur l'île l'île de Shikoku. Alors, ce galion qui s'appelle le San Felipe, donc, s'échoue, et tout le problème, on va dire, c'est le problème de la cargaison. Du coup, si vous voulez, en droit maritime, la cargaison doit revenir au pays échoué, et donc le navire espagnol perd sa cargaison. Alors, évidemment, le capitaine va essayer de négocier avec le pouvoir japonais, et donc il va embarquer en quelque sorte avec lui pour aller voir le pouvoir japonais, les franciscains qui sont sur place. En fait, il va demander à un franciscain de jouer le rôle d'interprète pour plaider sa cause hein, auprès du pouvoir japonais. Et donc, bon, les franciscains espagnols vont accepter de l'aider, sauf que le pilote en question du navire est absolument maladroit, hein, puisqu'il va se présenter donc comme étant le représentant du roi le plus puissant du monde, Philippe II, qui a conquis des territoires en Amérique. Bon, bref, autrement dit, il étale en quelque sorte la puissance du roi d'Espagne au Japon. Évidemment, ça passe très mal auprès du pouvoir japonais, surtout quand il entend en plus que l'Espagne a conquis l'Amérique, il y a l'idée que potentiellement les Espagnols, depuis les Philippines, pourraient avoir des projets hein, d'invasion du Japon. Donc, c'est à la suite, on va dire, alors c'est évidemment, c'est l'élément déclencheur, hein, mais il n'y a pas que ça, mais on va dire que c'est à la suite de cet épisode du naufrage hein, du galion à San Felipe que vous avez le retournement, on va dire, d'opinion du pouvoir japonais qui va décider donc de la persécution de 1597, et il va s'en prendre à qui? Eh bien, aux représentants, en quelque sorte, du roi d'Espagne hein, sur place au Japon, à savoir hein, les franciscains. Alors tout cet épisode, si vous voulez, du navire San Felipe et de la maladresse, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, du pilote hein, du navire, c'est évoqué mais très légèrement, hein, en fait, dans les récits, notamment de Marcelo hein, de Rivadeneira, ou en tout cas, ça n'est jamais présenté comme étant à l'origine hein, du déclenchement, hein, si vous voulez, du martyr. Et donc, quel est, on va dire, le but, hein, si vous voulez, des franciscains, des chroniqueurs hein, en présentant les causes de cette manière-là, c'est de montrer, si vous voulez, que ça, vous avez donc un retournement de la part de Hideyoshi, qui ça réactive, si vous voulez, des images tout à fait traditionnelles, en fait, des persécuteurs de l'Église. Si vous prenez, par exemple, des récits anciens du martyr, hein, le modèle, hein, par exemple, c'est Lactance hein, de la mort des persécuteurs, si vous voulez, où on va, donc un récit, si vous voulez, de l'Antiquité, hein, des martyrs de l'Antiquité, où, voilà le modèle des empereurs romains persécuteurs, un peu fous, si vous voulez, qui tout d'un coup décident d'une persécution. On réapplique, si vous voulez, en quelque sorte, le même modèle hein, sur les dirigeants hein, des pouvoirs, les dirigeants du Japon. Donc ça, c'est, on va dire, première cause. On met tout à, en quelque sorte, du point de vue franciscain, sur un retournement de situation de la part du pouvoir japonais. Mais ce qui est intéressant, c'est la deuxième cause qui est mise en valeur par les franciscains. Et c'est, qu'est-ce que font les franciscains ? Ils soulignent l'implication de la Compagnie de Jésus dans le déclenchement de la persécution. Donc, ça, évidemment, ça rentre dans le cadre de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, de cette rivalité entre ordre missionnaire et entre ibériques au Japon. Alors, pour bien comprendre, si vous voulez, cette querelle entre jésuites et franciscains, précisons quand même aussi une petite chose, c'est qu'un évêque s'est installé, si vous voulez, au Japon en 1596. Donc il s'est installé dans la ville précisément de Nagasaki, vous avez Nagasaki ici, qui est la principale ville chrétienne du Japon. La particularité de Nagasaki, c'est que la population est entièrement chrétienne. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que c'est la ville de résidence de l'évêque. Et troisième élément, c'est que petit à petit, on va instaurer un système paroissial calqué sur le modèle européen au début du XVIIe siècle. Alors, le problème de cet évêque, en soi, le problème, c'est pas qu'il y ait un évêque au Japon. Le problème, c'est que c'est un évêque qui est issu des rangs de la Compagnie de Jésus. Donc, évidemment que l'évêque n'est pas particulièrement bien perçu, on va dire, par les franciscains. C'est réciproque. L'évêque ne peut pas les supporter. Les franciscains accusent l'évêque, évidemment, de ne pas assurer un traitement équitable des ordres religieux qui sont présents au Japon. Et donc, qu'est-ce que font les chroniqueurs Alors, notamment, donc, Ribadaneira et aussi un autre chroniqueur que je n'ai pas évoqué jusqu'à présent, qui lui aussi a cette particularité d'avoir été présent au Japon à cette époque, qui s'appelle Jeronimo de Rezus. Sa chronique a été éditée notamment dans Archivum Franciscanum Historicum, qui là aussi vous pouvez le trouver facilement à la bibliothèque. Et donc, qu'est-ce que fait le chroniqueur Jeronimo de Rezus ? Eh bien, il accuse tout simplement l'évêque d'avoir fait pression sur le pouvoir japonais pour déclencher les persécutions. Il nuance quand même un petit peu. Alors, il dit voilà, bon, l'évêque n'a pas quand même été trouvé directement les autorités japonaises, mais l'évêque a fait pression sur les Portugais, dont il est proche, pour que ces derniers réclament l'éviction, l'éviction des franciscains. Bon, évidemment, c'est juste un artifice pour viser évidemment l'évêque. Donc, quel est là, on va dire, l'objectif des franciscains ? Alors, c'est évidemment d'attaquer l'évêque, mais c'est aussi indirectement, si vous voulez, en attaquant la compagnie comme étant à l'origine du déclenchement de la persécution, c'est attaquer aussi la validité des méthodes d'évangélisation qui sont utilisées par la compagnie. Alors pourquoi ? Parce que vous avez... Alors c'est plus sur le papier, j'ai envie de dire, que dans les faits. Vous avez une opposition sur la stratégie d'évangélisation du Japon. Alors pour schématiser vraiment très grossièrement, comme je vous dis, dans les faits c'est un petit peu plus compliqué, la compagnie se prononce pour ce que la compagnie de manière générale appelle la méthode d'accommodation, c'est-à-dire on va chercher à s'adapter à la société locale, donc on va adopter l'habit local, on va adapter la nourriture, on va se adapter aussi les sacrements d'une certaine manière, on va gommer certains aspects des sacrements, alors pas les aspects essentiels, les aspects à la marge, comme par exemple l'utilisation de la salive, voilà, ça on va laisser de côté parce que ça choquait les Japonais. Bon. De l'autre côté, les franciscains avaient plutôt l'idée qu'il fallait utiliser complètement les cérémonies, comme ils disent, qui avaient lieu en Europe. Donc un refus, si vous voulez, de l'accommodation. L'autre point, on va dire, majeur d'achoppement entre jésuites et franciscains, c'était la question de la pauvreté. Alors non pas que les jésuites sont contre la pauvreté quand même, faut pas non plus pousser le bouchon, si je puis dire, mais disons qu'ils étaient... Bon, le problème des jésuites, c'est qu'ils avaient besoin d'argent, parce qu'ils avaient développé énormément les établissements scolaires. Et donc, pour financer la mission, ils avaient pris des parts dans des navires commerciaux qui faisaient la navette entre la Chine et le Japon. Et donc, cette participation commerciale des jésuites était évidemment extrêmement critiquée par les franciscains, hein, au nom de la pauvreté. Bon. Donc, qu'est-ce que cherchent à montrer les franciscains aussi en attaquant la Compagnie de Jésus et en montrant qu'eux sont parvenus jusqu'au martyr, parce que ça c'est quelque chose sur lequel on va revenir. Je vous rappelle que le martyr c'est le but ultime de tout missionnaire. Vous allez aussi au Japon, alors certes pour convertir, mais le martyr ça reste vraiment la panacée en quelque sorte, hein, pour le missionnaire, hein, évidemment, qui rêve de se faire martyriser. Donc le martyr, je vous rappelle qu'au sens étymologique, hein, c'est le sens originel de témoignage. Et donc aussi en étant parvenu à ce témoignage ultime, on va dire, sur la croix, qu'est-ce que cherchent aussi à démontrer les franciscains ? C'est la validité de leur méthode par rapport à celle des jésuites. C'est une manière, alors paradoxale peut-être pour nous, mais en tout cas c'est très clairement, on va dire, énoncé de cette manière-là par les chroniqueurs, c'est qu'on a aussi cette reconnaissance de la validité de nos méthodes d'évangélisation par rapport, hein, à celle de la compagnie. Alors, précisément, comment est-ce que le martyr, hein, est-il dépeint, si vous voulez, dans les chroniques ? Peut-être que ça va vous permettre aussi de mieux comprendre pourquoi le martyr est aussi valorisé, hein, à l'intérieur, hein, si vous voulez, de la mission. Alors, la façon sur quoi mettre l'accent, on va dire quelques caractéristiques, si vous voulez, de la présentation de ce martyr. Alors, il faut déjà avoir en tête que tout est fait pour dramatiser, si vous voulez, la scène dans les récits, hein, de martyrs. Donc on va mettre l'aspect, si vous voulez, tragique en avant. Pourquoi ? Il faut songer aussi que ces chroniques du martyr, elles sont faites avant tout pour un public européen. C'est évidemment pas un public local. On va retrouver le public, enfin public local, hein, d'une certaine manière, mais le lecteur est essentiellement européen. Donc le but, c'est à travers le récit du martyr de susciter l'édification, hein. C'est pour ça aussi que ces récits sont faits. C'est vraiment de susciter l'édification du lecteur selon un modèle qui est très courant, si vous voulez, à cette époque-là en Europe et notamment, hein, en Espagne au XVIe siècle. Vous voyez, le lectorat européen est très friand des récits de martyrs qui se passent dans les missions. Alors que ça soit les missions en Asie, mais aussi, hein, les missions en Amérique. Hein. Chaque mission essaie d'avoir un petit peu son martyr qu'elle va essayer de pousser en avant et qui apporte, hein, de la gloire, hein, à sa mission. Donc autrement dit, si vous préférez, le martyr est absolument omniprésent dans la littérature religieuse. Sachant que la littérature religieuse est la majeure partie de la littérature, hein, si vous voulez, en Espagne à cette époque-là, hein, faut avoir ça en tête. Le martyr, c'est vraiment quelque chose, voilà, qui est très courant, hein, dans la littérature de l'époque. Alors, comment est-ce qu'on nous le présente ? Déjà, évidemment, on nous présente ce martyr comme étant une victoire, si vous voulez, spirituelle, évidemment, des franciscains. Donc, vous avez tout un vocabulaire, mais là, c'est vraiment, en fait, la réactivation de Topoï que vous trouvez couramment dans la littérature de martyr. Ça n'est absolument pas, si vous voulez, une nouveauté. En fait, le récit de 1597, vous lisez, par exemple, des récits de martyrs qui se passent en Amérique, à peu de choses près, c'est plus ou moins la même chose, hein. On change un peu le cadre, on change un peu le paysage, on change japonais pour comment ça s'appelle, pour les sauvages brésiliens, hein, comme on disait à cette époque-là, vous avez plus ou moins la même chose, mis à part la petite méthode d'exécution, on va voir dans quelques instants, qui est quand même particulière au Japon. Donc voilà, on va utiliser couramment, hein, ce vocabulaire, hein, de la bataille. On va aussi énormément théâtraliser, hein, la scène du martyr, hein, si vous voulez. Alors là aussi, c'est tout à fait courant, mais ce qui est pratique, hein, en quelque sorte, c'est que évidemment, on va mettre dans cette théâtralisation du martyr, le corps souffrant en avant. Donc vous avez énormément, si vous voulez, on insiste énormément sur, voilà, le corps sanglant. Alors ce qui est, comme je vous disais, d'autant plus pratique, c'est que le mode d'exécution des martyrs de 1597 est tout à fait particulier. Est-ce que vous pouvez passer la diapositive suivante ? Voilà. Alors, c'est une gravure qui est issue, on va y revenir après, des nombreuses publications qu'il y a eu sur le martyr de 1597. Alors, c'est un peu imagé, hein, en quelque sorte, mais vous, évidemment, que vous remarquez en premier, c'est que le martyr, quelle est la forme que prend le martyr ? C'est une crucifixion. Alors, crucifixion un petit peu particulière, puisque au Japon, alors c'est dépeint, en fait, vous ne mourrez pas par asphyxie comme la crucifixion normale, si je puis dire. Vous mourrez, hein, vous voyez qu'ils sont seulement attachés au poignet, vous mourrez parce qu'on vous transperce les côtes. C'est pour ça que vous avez les deux lances hein, sur les côtés. Mais il n'empêche, hein, il faut bien le voir, et vous voyez que la gravure est là aussi pour le montrer. Si je puis dire, c'est tout à fait théâtral hein, aussi dans la présentation hein, qui est faite aux Européens. Et vous avez, vous voyez, donc au centre hein, évidemment la croix, et puis vous avez le public en quelque sorte, hein, le public hein, qui est tout autour. L'exécution hein, évidemment est publique sur une colline. Alors ça, on devine un petit peu hein, à l'arrière-plan. Nagasaki, en fait, c'est une baie hein, évidemment qui est entourée par des montagnes. Vous n'êtes jamais très loin de toute façon de la montagne au Japon. Alors ça a son importance, tous ces petits détails, vous voyez, la montagne, la crucifixion, le fait que vous ayez alors évidemment des persécuteurs hein, japonais, le public hein, qui regarde, évidemment quel est le troisième thème, on va dire, en plus de la théâtralisation qui est convoquée, c'est l'imitation du Christ. Hein, évidemment qu'avec tous ces petits éléments, c'est assez facile, hein, on va dire, pour le chroniqueur de tirer hein, ce thème de l'imitatio Christi. Alors, là aussi, ce thème hein, de l'imitation du Christ, donc comme je vous disais, c'est facilité en quelque sorte par les circonstances, mais c'est un thème tout à fait classique des martyrologes, si vous voulez, de l'époque, hein, puis même de l'Antiquité, hein, j'ai envie de vous dire, vous reprenez là aussi des récits anciens, ça n'est absolument pas nouveau. Alors, quand même, quelle est la petite touche que vont amener les chroniqueurs franciscains par rapport à ce canevas, si vous voulez, bien ficelé, en quelque sorte, des martyrologes? Eh bien, ils vont essayer de démontrer la conformité, si vous voulez, de la vie des martyrs avec les principes du fondateur de l'ordre. Enfin, c'est là, voilà, le petit plus qu'ils vont amener. Et ça nous permet de rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure. Qu'est-ce qui distingue les franciscains par rapport aux jésuites et qui les a conduits aux martyrs? C'est précisément la question de la pauvreté, évidemment, qui est au centre hein, des principes hein, franciscains. Alors, comment est-ce que les chroniqueurs hein, soulignent cet aspect de pauvreté? Eh bien, en fait, ils reviennent sur la vie, si vous voulez, des martyrs hein, avant la persécution. Et sur quoi insistent-ils? Ils insistent notamment donc sur les soins qui étaient dispensés aux pauvres par les franciscains au Japon et sur les soins qui étaient dispensés aussi aux lépreux, puisque les franciscains vont ouvrir alors quelques couvents, si vous voulez, au Japon, et à ces couvents va être toujours accolé un hôpital qui était destiné aux lépreux. Alors, je précise tout de suite, ça n'est pas du tout valorisé dans le contexte japonais, les soins apportés aux lépreux. Les lépreux hein, sont extrêmement mal considérés jusqu'encore à une date très récente. Hein. Au Japon, c'est un peu des parias, hein, si vous voulez, de la société, pour pas dire des intouchables, au sens propre et au sens, hein, si vous voulez, figuré. Ils habitent dans des quartiers, ils habitaient dans des quartiers à part, hein, évidemment. Et donc, si vous voulez, il faut reconnaître que ce soin qui était apporté par les franciscains aux lépreux, alors constituait une vraie demande, si ça répondait aussi à une vraie demande, hein, si vous voulez, locale, mais ça avait eu aussi pour effet de détourner une partie de la population, une partie des Japonais, de la conversion au christianisme. Parce que, alors évidemment, les jésuites ne se privaient pas de critiquer, du coup, cette méthode. Voilà, il y a toute une partie des Japonais qui effectivement considéraient que puisque le christianisme était associé à des pauvres et à des malades, voilà, ça les détournait hein, évidemment de la conversion. Alors, par contre, évidemment que du point de vue du chroniqueur, c'est là où vous avez de nouveau ce décalage entre la situation locale et la façon dont c'est présenté par les chroniqueurs, la vertu hein, de la pauvreté, le désir d'humilité aussi qui transparaît avec ce soin aux malades, bien, ça reprend, c'est autant de modèles, hein, si vous voulez, de la tradition franciscaine. Et donc, là, je reprends, si vous voulez, des analyses, je vous renvoie évidemment à des analyses que vous connaissez bien d'André Vaucher, qui soulignait imaginer que la relation entre la sainteté et l'accomplissement de la règle hein, chez les franciscains est très étroite. Hein. Et donc c'est vraiment cette norme, si vous voulez, de perfection à travers la pauvreté qui est recommandée, hein, qui permet d'atteindre, si vous voulez, de parvenir à la gloire hein, du fondateur et à la gloire évidemment divine hein, de cette manière-là également. Donc autrement dit, si vous voulez, qu'est-ce que font aussi les chroniqueurs franciscains ? Ils réactivent tout simplement un modèle traditionnel de la sainteté franciscaine. Donc là aussi, si vous voulez, c'est pas très nouveau, hein, on prend toujours hein, des modèles que l'on réactive, hein, des schémas narratifs hein, anciens que l'on applique hein, aux martyrs de 1597. Alors, dernier point que j'aimerais aborder, c'est vraiment la publicité qui a été donnée aux martyrs. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est d'autant plus une réussite hein, de ce point de vue-là de la part des franciscains que, comme je vous disais, c'est vraiment une toute petite mission. Alors, par exemple, les franciscains, je ne sais plus si je vous l'ai dit tout à l'heure, les franciscains, c'est 10 personnes. Hein. La mission franciscaine au Japon, voilà, quand je vous dis c'est très très petit, voilà, c'est numériquement, hein, c'est très faible. Alors, en termes du nombre de conversions de Japonais, si vous voulez, au total, alors pas que convertis par les franciscains, au total, on estime qu'au début du XVIIe siècle, c'est à peu près 300 000 personnes, soit, on va dire, à peu près 10% de la population japonaise. Donc, comme diraient certains historiens, c'est une forte minorité. Mais c'est tout de même, hein, si vous voulez, une minorité, hein, quand même, à l'échelle du Japon. Alors, comme je vous disais, ce qui est tout à fait étonnant, c'est la publicité qui va être donnée par les franciscains. Alors, tout de suite, si vous voulez, dès 1597, les franciscains décident de diffuser la nouvelle du martyr et d'agir pour obtenir une reconnaissance officielle, si vous voulez, du martyr par la papauté. Et donc on enclenche, si vous voulez, un processus qui doit mener in fine évidemment à la béatification et à la canonisation des martyrs. Et c'est en enclenchant, si vous voulez, ce processus de reconnaissance par la papauté que l'événement va acquérir, hein, si vous voulez, une portée mondiale. Alors, revenons déjà un petit peu en quelques mots sur le chemin, si vous voulez, pour mener à la reconnaissance officielle de la sainteté. Je vous rappelle que ça n'est évidemment pas du tout automatique. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous êtes crucifié sur une colline à Nagasaki en 1597 et que ça ressemble quand même furieusement hein, à la crucifixion du Christ, que automatiquement hein, vous allez être reconnu comme bienheureux et comme saint par la papauté. Il y a toute une procédure hein, qui est extrêmement complexe, qui est extrêmement longue, hein, c'est toujours d'ailleurs le cas, qui demande donc de faire appel à Rome. Et je vous rappelle que alors cette procédure, elle s'est imposée au XIIe siècle hein, et elle a imposé définitivement Rome, hein, si vous voulez, comme le point, si vous voulez, de reconnaissance pour la sainteté. Alors, je vous rappelle aussi que c'est depuis 1588 hein, la Sacrée Congrégation des Rites hein, qui est chargée de ces procès de canonisation. Alors, le problème, comme je vous l'ai dit, c'est que c'est très long. Hein, à part certaines béatifications ou canonisations express comme maintenant, comme Jean-Paul II, c'est quand même assez rare. C'est d'autant plus rare que ici, il faut instruire le cas à distance. Hein, c'est-à-dire que on est au Japon, il faut envoyer tous les documents, hein, si vous voulez, jusqu'à Rome, avec toutes les difficultés de navigation que ça représente. Vous pouvez perdre des documents, faut que ça transite donc par tout le Pacifique, par l'Amérique, qu'on retraverse l'Atlantique, et après potentiellement hein, que ça arrive, que vous traversiez l'Europe pour arriver jusqu'à Rome. Hein, donc c'est tout un petit périple que doivent effectuer hein, les documents. Bon. Le problème, c'est que le temps donc de Rome n'est absolument pas le temps des fidèles. Et ça, là aussi, c'est pas une nouveauté. C'est-à-dire que de manière tout à fait fréquente, et ça, vous retrouvez des cas en Europe. Hein. Je renvoie par exemple aux travaux qui ont été effectués par Éric Suire sur la sainteté, si vous voulez, à l'époque moderne. Alors, qui prend plutôt des exemples, si vous voulez, français. Vous retrouvez des cas tout à fait, voilà, des cas similaires, hein, si vous voulez, en Europe. Donc, qu'est-ce qui qui se passe? Il se passe que très, très fréquemment, les fidèles vénèrent une personne qui est considérée comme sainte avant même la reconnaissance officielle par le Saint-Siège. Et donc, comme le souligne d'ailleurs Éric Suhr, il y a un véritable malentendu entre le Saint-Siège et les fidèles. Alors, quel est ce malentendu? Pour les fidèles, canoniser, ça consiste à ratifier un culte qui est déjà établi. On a commencé déjà à rendre le culte aux martyrs ou aux saints avant même la reconnaissance officielle par Rome. Tandis que pour le Saint-Siège, et c'est d'autant plus fort dans le contexte de la réforme catholique, si vous voulez, la canonisation, ça n'est jamais qu'une faveur exceptionnelle qui est accordée à un petit nombre, si vous voulez, d'élus. Alors, le martyr de 1597, il n'échappe absolument pas, si vous voulez, à cette règle. C'est-à-dire que avant même la mort, missionnaires, les chrétiens de Nagasaki, les chrétiens japonais, vont tout de suite recueillir de futures reliques. Alors, si vous voulez. Donc notamment, et ça c'est dit très bien dans les chroniques, donc qu'est-ce qu'ils récupèrent? Alors ils récupèrent déjà du sang, et le pauvre martyr est à peine on lui a à peine percé les côtes, il y a déjà quelqu'un qui tend un petit récipient pour récolter le sang. On récolte aussi des petits bouts des croix, ou on récolte du tissu qui a recouvert les martyrs, et puis évidemment on va récupérer les corps des martyrs. Alors après, toute la question, on va voir, c'est qu'est-ce qu'on fait des corps, comment est-ce qu'on se partage les vénérables dépouilles des martyrs de 1597. Alors, autre élément qui montre, si vous voulez, que la reconnaissance par les fidèles locaux, évidemment par les franciscains locaux, est automatique, c'est que Ribadeneira et Jerónimo de Jesús emploient le qualificatif de martyr pour les franciscains crucifiés avant même une quelconque reconnaissance officielle. Par exemple, le livre de Ribadeneira qui se trouve à la bibliothèque ici, il date de 1599. Vous voyez, c'est très rapide, la chronique, elle est écrite à peine 2 ans après le martyr. La reconnaissance officielle, la béatification, quand est-ce qu'elle va intervenir par la papauté, elle n'a lieu qu'en 1627. Et la canonisation des martyrs, c'est uniquement en 1862. Et donc c'est à ce moment-là que vous avez une nouvelle flambée, on va dire, de récits sur le martyr de 1597. En fait, il y a beaucoup de récits qui datent du 19e siècle, qui sont des reprises des publications du 17e. Pourquoi ? Parce que voilà, la canonisation a lieu uniquement en 1862. Donc autrement dit, si vous voulez, les chroniqueurs franciscains de la fin du 16e siècle, ils n'émettent absolument aucun doute sur la qualité de saint des missionnaires franciscains. Et donc en fait, quel est le but aussi, si vous voulez, de ces chroniques franciscaines? Elles entendent se faire l'écho en fait de la vox populi, d'une certaine manière locale, qui n'a pas attendu la décision romaine pour rendre un culte aux franciscains martyrisés et procéder à une canonisation officieuse. De facto, en fait, vous avez une sorte de, voilà, une reconnaissance par les chrétiens locaux. Et le but, évidemment, de la manœuvre, c'est de forcer la main au souverain pontife en attestant de la réputation de sainteté et en lui demandant, du coup, d'officialiser ce qui est déjà un culte de fait. Et en cela, si vous voulez, les franciscains s'opposent évidemment de nouveau à la Compagnie de Jésus. C'est-à-dire que vous avez publicité d'un côté par les chroniqueurs franciscains, contre-publicité automatiquement par la Compagnie de Jésus. Alors pourtant, ils sont doués aussi par la publicité, mais ils ont du mal à faire la contre-publicité. Alors, quelle est la contre-publicité qui est faite par les jésuites? Deux arguments principaux qui sont énoncés par les jésuites et notamment par l'évêque. Premier argument, c'est de dire, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la question des causes. Il faut que, si vous voulez, pour que vous ayez martyr, il faut que vous soyez mort en haine de la foi. Bon. Or, qu'est-ce que disent les jésuites? Ils disent, pas du tout, c'est pas du tout le cas, ça n'est pas une persécution qui a été levée en 1597 contre le christianisme, il n'y a pas du tout de chrétien qui a été inquiété en dehors, si vous voulez, des franciscains. Il n'y a pas eu de destruction, si vous voulez, d'église, notamment en 1597. Donc, qu'est-ce que disent les jésuites? Ils disent, conclusion de l'opération, ça a été uniquement, si vous voulez, des mesures qui ont été prises contre les franciscains qui n'ont pas respecté les ordres du pouvoir japonais, mais ça n'est absolument pas une haine du christianisme. Donc, puisque la cause est invalide, il ne peut pas y avoir de martyrs. Premier argument qui est avancé par les jésuites. Et puis, deuxième argument qui est avancé par les jésuites, pour que vous ayez une reconnaissance, on va dire, de la sainteté, il faut que vous ayez des signes miraculeux. Ça, c'est obligatoire, hein, évidemment. Alors, qu'est-ce que, parmi les signes miraculeux qui ont suivi la mort des franciscains, qu'est-ce que vous avez ? Alors, vous avez, par exemple, alors, ça, c'est tout à fait classique, hein, là aussi. Il y a, par exemple, des signes lumineux, vous voyez, des étoiles qui se mettent à briller de manière tout à fait exceptionnelle, des boules de feu qui traversent le ciel, et puis alors là aussi le signe par excellence, le corps au bout de plusieurs semaines n'est pas corrompu, hein, des martyrs. Alors pourquoi on le sait ? C'est parce qu'on va couper des bouts, hein, pour les envoyer dans différentes parties du monde. Alors, tous ces signes, on va dire, sont évidemment contestés, hein, par les jésuites, notamment par l'évêque, hein, qui taxe en gros d'affabulateurs, hein, on va dire, les franciscains au sujet de ces différents signes. Alors, comme je vous disais, ça va pas du tout fonctionner, cette contre-publicité. Pourquoi ? Parce que les franciscains vont en fait mobiliser l'ordre entier, si vous voulez, pour la reconnaissance, hein, du martyr. Alors, sur le soutien de qui vont-ils pouvoir compter ? Ils vont pouvoir compter déjà sur le soutien des franciscains en Asie, que ce soit les franciscains qui soient basés à Macao ou que ce soit les franciscains qui soient basés à Goa, qui vont d'ailleurs réclamer leur petit bout, hein, de martyr. Donc il y a notamment des têtes, hein, qui sont envoyées à Goa, hein, qui vont rester à Goa. Et puis surtout, qui va relayer le martyr, beaucoup plus encore que les franciscains en Asie, ce sont les franciscains de Nouvelle-Espagne. Alors pourquoi expliquer cet engouement, si vous voulez, des franciscains de Nouvelle-Espagne à relayer, si vous voulez, le martyr ? Deux éléments. Alors premier élément, tout à fait, on va dire administratif, mais qui a aussi son importance, c'est que la mission franciscaine du Japon, en fait, est une dépendance de la mission des Philippines. En fait, c'est les franciscains, on l'a évoqué tout à l'heure, des Philippines qui se sont rendus au Japon. Et la mission des Philippines est elle-même une dépendance de la mission de Nouvelle-Espagne. Donc, c'est par ce jeu, on va dire, des dépendances en quelque sorte administratives, la mission, hein, de Nouvelle-Espagne, hein, du Mexique, si vous préférez, est engagée, hein, dans cette reconnaissance du martyr. Et puis, autre élément qui renforce l'implication de la mission du Mexique, c'est que, du coup, puisque vous avez ces liens administratifs, en fait, une partie des missionnaires qui sont envoyés en Asie, que ce soit aux Philippines ou au Japon, sont en fait originaires du Mexique, hein, ils sont nés au Mexique, hein, c'est vraiment des créoles, hein, en fait, comme on disait dans le vocabulaire de l'époque, des Espagnols qui sont nés, hein, en Espagne. Et coup de chance, si je puis dire, pour la mission des Philippines et surtout la mission de Nouvelle-Espagne, parmi les franciscains qui sont crucifiés en 1597, vous avez un martyr qui s'appelle Gonzalo Garcia, celui-là il est originaire d'Inde, mais vous en avez un autre, je ne retrouve plus son nom, je vais le retrouver un peu plus tard, qui est en fait originaire de Nouvelle-Espagne. Et donc c'est pour ça qu'ils sont aussi... C'est Philippe, voilà, j'arrive plus à le retrouver. Voilà, Philippe, si vous me le dites. Qui donc, lui, est originaire, hein, si vous voulez, de Nouvelle-Espagne. Donc évidemment, ça les pousse, hein, en quelque sorte, à revendiquer, hein, aussi cette reconnaissance, hein, du martyr. Donc une partie des reliques, hein, va partir pour la Nouvelle-Espagne, et vous avez aussi une partie des reliques qui va arriver, hein, aussi jusqu'en Espagne. Hein, vous voyez, là aussi, vous avez, voilà, c'est un déploiement planétaire, hein, en quelque sorte, de ces reliques, notamment à Salamanque, hein, vous avez des reliques, vous avez également des reliques, hein, à Séville. Ah, donc vraiment, voilà, on va vraiment diffuser, hein, si vous voulez, dans le monde, hein, ces reliques. Alors, ce qui est intéressant aussi, d'un strict point de vue local, c'est que vous avez vraiment... Alors, on essaie de les diffuser, si vous voulez, dans le monde, mais vous avez vraiment aussi le souci de conserver des reliques en Asie. Et ça, c'est quelque chose qui se développe, hein, de plus en plus, c'est-à-dire qu'on essaie de développer aussi une sainteté locale. Comment est-ce que vous arrivez aussi à promouvoir le christianisme ? christianisme au niveau local, à affermir les communautés chrétiennes, c'est parce qu'il faut aussi que vous ayez vos saints locaux, d'une certaine manière. Donc il y a, si vous voulez, voilà, on diffuse, mais tout en essayant hein, quand même de conserver un maximum, hein, on va dire, de reliques en Asie. Alors, pour conclure sur ce martyr hein, de 1597, donc vous voyez qu'il y a vraiment une ambiguïté, en fait, dans ce martyr de 1597, que ne parviennent pas complètement non plus quand même à gommer les chroniques franciscaines. Alors, il faut bien comprendre, donc, comme je vous l'ai expliqué, que son déclenchement hein, de cette persécution est largement dû quand même hein, à l'attitude hein, des frères mineurs. Alors, les pauvres, ils sont embarqués aussi avec leurs amis espagnols, hein, mais bon, c'est une conjonction des deux, ce qui va contre la définition même hein, du martyr. Et donc, en fait, toutes les chroniques, c'est leur intérêt franciscain, développent des stratégies hein, littéraires, on l'a expliqué, voilà, pour masquer ce fait. En fait, réutiliser aussi, vous voyez, tous les topoi des martyrologes, hein, c'est aussi une manière de gommer un petit peu ce qui aurait pu limiter, on va dire, la reconnaissance du martyr hein, par la papauté. Ce qui a abouti d'ailleurs au paradoxe, hein, on l'a vu, que la persécution, c'est plus celle de la compagnie hein, au final que celle hein, du pouvoir japonais. Et ce qui est tout à fait aussi intéressant, c'est de montrer que dorénavant, si vous voulez, la bataille des informations entre les ordres religieux, elle se fait à une échelle, hein, si vous voulez, qui est tout à fait planétaire. Et là, je renvoie notamment aussi à tous les travaux de Serge hein, Grusinski, qui a beaucoup développé hein, aussi cet aspect, si vous voulez, de réseau. Hein, d'informations planétaires hein, par les ordres religieux. Et ce qui est tout à fait... Alors, bien souvent, si vous voulez, je pense que dans l'historiographie des missions, hein, notamment, lorsqu'on parle d'échanges d'informations planétaires, on pense automatiquement à la Compagnie de Jésus. Alors, ils ont été très doués pour développer eux-mêmes cette promotion d'un ordre comme un ordre planétaire. Mais je pense que, si vous voulez, le martyr de 1597 est un bon exemple que les franciscains ne sont absolument pas en reste quand ils le souhaitent, pour avoir, si vous voulez, cet aspect pour développer ce réseau hein, d'informations à une échelle planétaire. Alors, c'est peut-être moins, si vous voulez, systématique, et je pense que c'est pour ça que, quand on dit réseau planétaire à l'époque, on associe ça automatiquement avec la Compagnie de Jésus, parce que, voilà, c'est tout à fait systématique pour la Compagnie, mais je pense que là, on a tout à fait un bon exemple, hein, si vous voulez, de la capacité des franciscains à mobiliser leurs réseaux, hein, qui sont différents de ceux de la Compagnie de Jésus, mais qui n'en sont pas moins efficaces pour assurer, hein, si vous voulez, la promotion de leur propre sainteté, alors même, hein, comme on l'a vu, que c'est un événement tout à fait mineur dans l'histoire de, on va dire, locale, hein, de la chrétienté japonaise. Voilà, je vous remercie.